France Info.
Bonsoir, bienvenue dans les informés de France Info, votre émission de débat et d'opinion sur France Info, franceinfo.fr sur les réseaux sociaux, avec le hashtag les informés, également sur le canal 27 de la TNT. Dans quelques heures, il sera temps d'aller dormir. Hein. Et ça vient d'être prouvé par une équipe de scientifiques américaines. Le sommeil permet au cerveau d'effacer les informations de moindre importance accumulées pendant la journée. Voilà, c'est bien fait, hein, tout de même. Moi, ce matin, par exemple, je me suis réveillé en chantant Carglass répare, Carglass remplace. Alors, ce qui veut dire que pour mon cerveau, c'est une information importante. J'ai une de ces envies de remplacer des pare-brises depuis ce matin, c'est assez incroyable. Et eux, ils ne connaissent que la bonne qualité. Ce soir, les informés de France Info reçoivent Axel Tessandier. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, vous êtes à la tête d'une agence de communication digitale, mais vous êtes également délégué national du mouvement En Marche, donc, d'Emmanuel Macron. Également, Julien Bayou, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes porte-parole d'Europe Écologie Les Verts. Laurent Bazin, bonsoir.
Bonsoir.
Éditorialiste politique à TV5 Monde. Et je précise que votre très bon livre, Le bal des désingueurs, écrit avec Alba Ventura, est sorti aujourd'hui, c'est ça.
Merci
en poche,
pour lui.
J'ai lu, voilà un livre, très amusant à lire en tout cas, et très intéressant. Et également à nos côtés, David Boueri, bonsoir, de la rédaction de France Télévisions. Et ce soir, quatre débats en flip-flap dance sur l'actualité. Jamais mise en place, et pourtant ça coûte cher, l'écotaxe. Aulnay-sous-Bois, les politiques s'en mêlent, la gauche n'est pas d'accord, mais pourrait s'associer. Mais pour l'instant, dans les informés de France Info, c'est l'heure de notre premier débat. Alors peut-être vous en souvenez, auparavant dans les booms, il y avait le quart d'heure américain, un moment fabuleux, hein, où c'était au tour des filles d'inviter les garçons à danser.
Des bons souvenirs, on s'en souvient.
Voilà. Désormais, tous les soirs, dans les informés de France Info et partout d'ailleurs, il y a le quart d'heure Fillon. Voilà, moment un peu tendu, où les proches du candidat de droite font tout pour ne pas être invités à danser. Hein, on reste discret dans un coin du buffet, vous embêtez pas pour nous. Après les révélations du canard enchaîné évoquant les 45 000 euros d'indemnité de licenciement payés par l'Assemblée nationale à Pénélope Fillon, après les révélation du Parisien aujourd'hui en France expliquant que la même Pénélope Fillon exerçait deux emplois à temps plein, l'une à la revue des Deux Mondes et en tant qu'attaché parlementaire, François Fillon s'est expliqué lundi et de nouveau aujourd'hui sous forme de lettre aux Français publiée dans Ouest France dans laquelle il écrit « Choisir de se tenir debout ». Désormais, c'est la collusion entre sa société de consulting de F Conseil et AXA dont l'un de ses soutiens Henri de Castres était le dirigeant qui est dénoncé et notamment par le président du Modem, François Bayrou.
Je n'aurais jamais imaginé ça. Moi, je pensais que François Fillon était quelqu'un qui était absolument, de ce point de vue-là, à l'abri. Je veux vous dire ceci. Jamais dans l'histoire de la République, un candidat aux plus hautes fonctions, à la présidence de la République, n'a été ainsi sous l'influence des puissances d'argent.
Voilà, François Bayrou, ce matin, sur France 2, Laurent Bazin, puissance d'argent, là, de la part de François Bayrou.
C'est un classique chez François Bayrou.
Oui.
Voilà, ce que je voudrais dire d'abord, c'est que François Bayrou, à chaque fois qu'il a envie de se cogner quelqu'un, c'est un allié des puissances d'argent. Il s'était attrapé, si j'ose dire, avec Claire Chazal, si vous vous souvenez bien, lors des présidentielles de 2002, il me semble, en accusant TF1 et Martin Bouygues d'être, en l'occurrence, alignés pour faire élire les autres, les puissances d'argent. Vous vous souvenez, on avait sorti Martin Bouygues, Arnaud Lagardère,
ça,
qui étaient les amis de Nicolas Sarkozy. Il l'a fait à Emmanuel Macron il n'y a pas très longtemps.
Oui, la séparation de l'argent et de l'État, il avait dit.
Voilà, il l'a fait à Nicolas Sarkozy donc une autre fois en 2007. Donc c'est un grand classique chez François Bayrou, qui veut juste dire quoi ? Je crève d'être candidat, mon ami Juppé n'y est pas, donc je vais y aller.
Julien Bayou.
Alors, je ne suis pas d'accord, c'est pas parce qu'il l'a fait à plusieurs personnes qu'il a tort.
C'est-à-dire j'ai qu'il pas
avait
dit ça,
effectivement
moi, j'ai pas
un problème.
Il avait, déjà fait.
Il y avait effectivement un problème de collusion avec Martin Bouygues et tous les fils à papa. Macron, on verra ce qu'il en est. En tout cas, pour Fillon, c'est très clair. Il a touché 200 000 euros de quelqu'un qui a intérêt à son projet de privatiser la Sécu. Enfin, je veux dire, il y a la question de l'enrichissement personnel. Peut-être que sa femme n'était pas au courant. Moi, j'ai entendu cette ouvrière qui dit il a détourné plus qu'on ne pourra jamais gagner dans notre vie. Donc, je crois que ça, c'est vraiment essentiel sur la question du rapport à l'argent, la déconnexion complète. Mais là, c'est carrément Enfin, on imagine la conversation. Allô Henri, t'as pas un boulot, je suis un peu sec. Oui, tu veux combien? 200 000. Ok, mais en échange, tu m'arranges le coup sur les mutuelles. C'est dramatique. Si on en est là, Non, mais je ne plaisante pas, parce qu'on est sur des questions de collusion entre le politique et l'économie.
Votre présentation est discutable.
Sauf que c'est la vérité. Pour l'instant, c'est ça.
Non, ce n'est pas la vérité.
C'est un député qui a quadruplé son salaire. Si ça, ce n'est pas de la dépendance à des puissances économiques.
C'est ce que vous pointez. Il y a votre version des choses. Très bien, elle vous appartient.
Peut-être qu'il ne se tutoie pas.
Et puis, il se tutoie sans doute. Et puis, il y en a d'autres qui se tutoient aussi.
Allez-y,
mais simplement, ça pointe une chose, c'est qu'en France, il n'y a pas de notion de conflit d'intérêts. Je crois que vous avez vécu aux États-Unis un moment. Aux États-Unis, le conflit d'intérêts, ça commence au simple soupçon.
Oui.
C'est-à-dire qu'un politique américain ne va jamais même prendre le risque d'être conseil d'un homme avec qui il va ensuite travailler ou dont il va porter les idées ensuite. Pourquoi ? Parce qu'il tombe tout de suite. En France, on est en plein naufrage sur le conflit d'intérêts et on se vautre à chaque fois sur ces sujets-là, la gauche comme la droite d'ailleurs, et assez régulièrement.
Axel Tessandier, justement, là aujourd'hui, François Fillon a publié une tribune dans la presse, et il avait fait une conférence de presse lundi, là de nouveau une tribune avec les mêmes arguments. Est-ce que pour vous, ça a apporté quelque chose ?
Non, mais surtout, ce qui est dramatique, c'est que on ne parle que de ça. Ça fait 10 jours qu'on parle de ça. Donc, la justice, elle est saisie. Elle va faire son travail. D'un point de vue moral, c'est dramatique. D'un point de vue de la défiance politique que l'on voit tous les jours, que les Français ressentent, c'est terrible. Et moi, je veux dire, je ne peux pas me réjouir de ça. On riait quand on écoutait le quart d'heure américain, le quart d'heure Fillon. On peut rire, mais c'est affolant, c'est dramatique. Ça sert le Front National à mort, ce que je veux dire, c'est ces théories du tous pourris, etc. Donc c'est affreux, c'est des pratiques qui n'ont plus de sens, c'est des pratiques que cette classe politique... Moi, vous savez, je ne suis pas une femme politique, je suis une citoyenne engagée. Je suis à En Marche depuis 3 mois ou 4 mois, parce que c'est une volonté de renouvellement de En Marche, de prendre la société civile. Moi, ce qui me choquait derrière mon écran il y a 3 mois me choque toujours encore aujourd'hui. Donc voilà, je trouve ça dramatique.
Alors, on va continuer à en parler dans un instant de cette affaire Fillon. En effet, ça fait 10 jours, mais nous, on continue, vous savez, toujours un petit peu, parce qu'on aime bien. Voilà, l'info, en tout cas, à 20h10, Pierrick Bonneau.
C'est ce texte qui assouplit les règles de légitime défense pour les policiers, durcit les peines pour outrage aux forces de l'ordre et autorise l'anonymat des enquêteurs. Les députés approuvent ce soir le projet de loi de sécurité publique. Le texte qui doit encore passer devant le Sénat devrait être définitivement adopté d'ici la fin des travaux parlementaires fin février. 11 interpellations la nuit dernière à Bruxelles et dans son agglomération dans une affaire de terrorisme. On l'apprend ce soir par un communiqué du parquet fédéral belge. Des combattants potentiellement de retour de Syrie. Selon le parquet belge, ce dossier est totalement distinct des attentats de Paris et Bruxelles. Au moins 6 employés afghans de la Croix-Rouge internationale tués par des membres présumés de Daesh dans le nord de l'Afghanistan. Ces employés acheminaient des fournitures vers des zones touchées par des tempêtes de neige meurtrières lorsqu'ils sont tombés dans une embuscade, selon le gouverneur de la province. Le groupe État islamique qui a par ailleurs revendiqué l'attentat suicide qui a fait au moins 22 morts hier devant la Cour suprême à Kaboul. Le jeune Théo, toujours sur son lit d'hôpital, reçoit désormais des soutiens de l'étranger. L'Inter de Milan, club de foot italien, a envoyé un message au jeune agressé sexuellement lors d'une interpellation par 4 policiers à Aulnay-sous-Bois. Le club promet d'inviter le jeune Théo donc à San Siro lorsqu'il ira mieux. Dans un tweet accompagné d'une photo de la visite de François Hollande dans la chambre d'hôpital du jeune homme hier. À ce moment-là, Théo portait justement un maillot du club italien.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, nous parlons donc de François Fillon qui lui donc continue sa campagne. Oui, exactement, qui continue sa campagne. Aujourd'hui, il était dans l'Essonne. David Boëry, on l'a vu aujourd'hui, la tactique ou la méthode finalement de communication des proches de François Fillon, c'est les médias. Voilà, vous en avez trop fait sur cette affaire. Est-ce que finalement aujourd'hui, c'est pas un peu aujourd'hui une technique vintage, on peut dire presque.
Mais sincèrement, je trouve ça tellement ridicule que je suis pas sûr que ça marche réellement. Il y a pas d'acharnement médiatique. Il se trouve juste qu'il y a des questions auxquelles il y a aucune réponse. Et ce qui est terrible là depuis 15 jours, c'est que les questions ne font que s'accumuler. Mais il y a toujours pas de réponse. Quand on regarde la tribune qui a été publiée, c'est exactement le même argumentaire que lundi dernier. Et il n'y a toujours aucun élément concret sur la réalité ou non du travail de Pénélope Fillon. Et d'ailleurs, même dans cette tribune, il continue à dire « on me reproche d'avoir embauché ma femme ». C'est pas du tout ça qu'on lui reproche. Les soupçons ne portent pas là-dessus. C'est sur la réalité du travail qu'elle a pu accomplir pendant toutes ces années.
C'est ça. Julien Bayou, vous vouliez...
Moi, je pense qu'on est trop gentils avec nos hommes politiques. C'est-à-dire que déjà, là, ils s'en sortent en accusant la presse. C'est extrêmement inquiétant. C'est pas pour vous défendre particulièrement.
Oui, mais c'est factuellement faux.
C'est extrêmement dangereux pour une société quand des types qui sont
les forces de l'argent ou les forces des médias.
Non, mais les forces de l'argent, il y a une collusion véritable.
Oui, mais bon,
et d'ailleurs, avec la presse,
c'est des arguments
évidemment, c'est la limite à l'indépendance de la presse quand des collusions, des grands manias possèdent des grands groupes. C'est pas vous qui allez me contredire. Mais c'est très très dangereux quand dans une société, les types qui sont absolument disqualifiés continuent à faire campagne et accusent la presse. Et en parallèle de cette folie Fillon, il y a la Roumanie qui connaît ses plus grandes manifestations justement contre la corruption. Et qui nous redonne des leçons. C'est-à-dire qu'en Roumanie, depuis pas longtemps, hein, c'est grâce à l'entrée dans l'Union européenne, le procureur est plus protégé, plus indépendant qu'en France. Et nous, on est obligés de supporter un candidat qui est... Bon, évidemment, c'est pour son camp, c'est dramatique. Mais je crois que c'est vraiment pour l'image, comme disait Axel, de la politique dans ce pays, de qu'est-ce qu'on peut faire d'honnête dans ce pays.
Et de qui récolte tout ça? Le Front National. Je veux dire, le Front National, ils sont... ils ont les emplois fictifs, recettes à but bien sociaux. C'est le parti qui a le plus de condamnés de mise en examen chez eux. Pourtant, ça glisse, rien ne se passe, et ils récoltent les faits, enfin, ils récoltent tout ça, cette défiance, le tous pourri.
Oui, il faut rappeler qu'ils sont concernés par les mêmes accusations.
Pire, et en nombre en plus.
Mais en plus, ce qu'on comprend bien, c'est que l'argument de cet acharnement médiatique, et donc c'est de la faute effectivement des médias, est utilisé comme un argument de dire ce n'est donc pas de ma faute, il n'y a rien d'illégal et donc je continue. Mais je ne suis pas sûr que ce soit réellement perçu comme ça.
Alors Laurent Bazin, il y a aussi...
Je ne suis pas sûr que ça marche.
Juste une chose sur le...
Ça dépend sur qui.
Sur le terrain de la... J'ai une question aussi sur le terrain de la transparence. Cette année, pour la première fois, tous les candidats vont devoir vraiment faire exercice de transparence en déposant leurs 500 signatures. Est-ce que c'est possible finalement une transparence totale de la vie politique?
Est-ce que c'est souhaitable?
Oui, alors non, mais déjà, est-ce que c'est possible?
C'est possible et souhaitable.
Je pense que l'argument sur les journalistes sont pas beaucoup plus aimés que les politiques et que quand les politiques se défaussent sur les journalistes, c'est notamment pour ça. C'est parce que ça permet d'envoyer la balle, si j'ose dire, dans l'embut adverse et de dire.
Oui, mais c'est aussi une façon de rejeter la responsabilité sur quelqu'un d'autre.
J'entends, mais je veux dire que c'est un discours qui peut être perçu quand même, et notamment par les partisans de François Fillon. Deux. Moi, ce qui m'intéresse, c'est moins la transparence absolue, parce que je rappelle que c'était quand même une revendication de Beppe Grillo en Italie. Donc je me méfie beaucoup du côté tous à poil pour voir ce que vous avez sur vous. Mais en revanche, ce qui m'intéresse, c'est le contrôle. Et dans l'affaire Fillon, mais on parle de l'affaire Fillon parce qu'elle est emblématique d'un comportement politique. Je rappelle qu'il y a un député sur cinq aujourd'hui à l'Assemblée nationale qui emploie sa femme ou ses enfants. Bon, donc c'est quand même beaucoup. Et il a fallu que la commission de la transparence de la vie politique soit là et exige de le savoir qui on emploie tout d'un coup, 2013, après l'affaire Cahuzac.
Mais il peut y avoir aussi plein d'épouses qui travaillent.
Tous ensemble.
Mais qui travaillent réellement.
Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est le contrôle. C'est-à-dire que moi, j'ai une boîte. Quand je dépense un sou, quand j'invite quelqu'un à déjeuner ou quand j'emploie quelqu'un, je rends des comptes à ma boîte.
C'est de l'argent public.
Et c'est normal.
Transparence.
Et quand c'est de l'argent public, ça doit être de la même manière. On doit rendre des comptes à une autorité de contrôle et le citoyen doit éventuellement pouvoir interroger l'autorité de contrôle pour savoir si tout s'est bien passé.
Je suis élu,
avec le groupe écologiste au conseil régional, on a choisi de rendre publique notre déclaration.
Très bien.
On aurait pu ne pas le faire. Je pense que c'est essentiel. Non seulement ça doit être contrôlé, mais je pense qu'il faut une transparence, et le mot total ne me gêne pas du tout. C'est de l'argent public. Qu'est-ce qu'un député fait avec les 6000 balles qui touchent au titre de ses frais de mandat? Aujourd'hui, c'est sans justificatif.
Oui, je suis d'accord.
Quelle est la raison à ça?
Je suis d'accord avec vous, on est d'accord.
Allez, on a beaucoup parlé de la droite, vous l'avez dit, Axel Tessandier, donc on va aller passer de l'autre côté de l'échiquier politique, puisqu'à gauche, qu'est-ce qui se passe en fait en ce moment? Mais si, souvenez-vous, entre la primaire de la droite et l'affaire Pénélope Fillon, il y a eu une autre primaire. Tout va trop vite, la primaire de la Belle Alliance Populaire, dont Benoît Hamon est sorti vainqueur face à Manuel Valls. Ça y est, là maintenant, vous remettez. Après avoir été officiellement investi dimanche, Benoît Hamon fait donc campagne, et notamment, on l'a appris donc de nuit, c'est pour ça qu'on ne le voit pas trop. L'ex-rondeur a opté d'ailleurs pour une posture d'animal politique nocturne, afin, je cite, de voir la France qui ne s'arrête pas de vivre entre 21h et 7h du matin. Alors le jour, par contre, Benoît Hamon réfléchit à des alliances et aimerait bien se trouver des copains. Mélenchon, ce n'est pas encore ça, mais Yannick Jadot, candidat écologiste, c'est presque ça, on l'écoute, Yannick Jadot.
Si nous arrivons à créer ce projet commun, parce que c'est ça l'essentiel, la clarté du projet et sa cohérence et la dynamique, à ce moment-là, évidemment, nous discuterons d'une candidature commune et aussi de la construction d'une majorité parlementaire pour mettre en œuvre ce programme présidentiel.
Yannick Jadot, le candidat écologiste hier sur Europe 1. Alors, Julien Bayou, on se souvient quand même de Yannick Jadot, le même candidat qui... Au soir de la victoire de Benoît Hamon, avait dit « c'est sûr, il y aura un bulletin ». Yannick Jadot dans les bureaux de vote à la présidentielle. Là, on n'en est pas trop sûr maintenant.
Mais là, en fait, nous, on réalise que c'est nos idées qu'on gagnait le dimanche soir dont vous faites
avec Benoît Hamon.
Eh oui, c'est Benoît Hamon est le troisième porte-parole d'Europe Écologie Les Verts, en plus brillant d'ailleurs.
Pardon, en plus Sandra. Brillant que Yannick Jadot.
Non, en plus brillant que Sandra, ma co-porte-parole et moi.
Et voilà.
C'était voilà. Non, plus sérieusement, c'est une victoire culturelle extrêmement importante. Et si on a l'occasion de transformer l'essai avec non pas un accord d'appareil, mais un rassemblement de dépassement, eh bien, ouais, nous on y est prêts, c'est sûr. Donc, on aimerait que Mélenchon et ses partisans soient plus enclins à discuter. Moi, j'aimerais aussi beaucoup que des personnalités qui font déjà des agriculteurs ou qui se battent contre la corruption embarquent dans l'aventure aussi.
Mais Julien Bayou, est-ce que c'est pas finalement un échec finalement aujourd'hui de l'écologie politique de pas avoir de candidat, parce que ça veut dire aujourd'hui depuis 1988, il y avait des candidats toujours
depuis 1974.
74 avant voilà, mais officiellement voilà, mais officiellement non, sur le label vert mais
c'est, Europe Écologie. Tout dépend c'est le programme.
Tout dépend du point de vue où on se place. Si c'est les idées qu'on souhaite faire progresser et qu'elles sont effectivement mises en avant, c'est pour ça qu'Yannick insiste sur la cohérence. Parce que c'est vrai que si c'est la même cohorte de députés élus en 2012, quand j'ai jamais fait de l'écologie, je pense qu'on va parler de l'écotaxe.
C'est ça.
Qui sont réélus pour soi-disant tout un autre programme, il y aura un problème de dissonance. Et que quand bien même nous, on le dirait, c'est super, allons-y, les électeurs ne suivraient pas. Et donc, c'est pour ça qu'il faut de la cohérence. Mais encore une fois, nous, on ne se place pas d'un point de vue l'appareil à tout prix. C'est pas rien du tout d'envisager de ne pas avoir de candidat. C'est clair, c'est pas rien du tout. Mais si ça peut faire progresser les idées dans l'opinion et les mettre en œuvre, on aura tout gagné.
Axel Tessandier, moi j'avais une question. On va revenir dans un instant sur Europe Écologie et Verts. Mais on avait parlé à un moment, au moment de la victoire de Benoît Hamon. Vous allez voir, ça va être une hémorragie incroyable vers le mouvement En Marche. Bon, bah finalement, il y a si peu de parlementaires, même pas, on avait dit, les Valsistes peut-être se retrouveront chez Emmanuel Macron. Est-ce que vous êtes un peu déçu finalement?
Non, je crois pas. Enfin, je veux dire, nous, non. De toute façon, on a regardé les primaires de loin, les primaires et de droite et de gauche.
Moi, j'ai fait.
Vraiment, oui,
de loin. Mais moi, j'ai même
vous raconté. Primaire de gauche, je suis pas sûr que vous l'ayez regardé vraiment
si,
de loin, quand même.
Absolument. Et moi, je vais vous dire, j'ai fait beaucoup d'émissions avec.
Tu as applaudi à la victoire de Benoît Hamon.
Je vais pouvoir finir. J'ai fait des plateaux avec les porte-parole de Benoît Hamon, de Manuel Valls, qui n'arrivaient déjà pas à se mettre d'accord. Finalement, parce qu'ils étaient d'accord sur pas grand-chose, en fait, dans le programme. Finalement, Benoît Hamon a gagné. Tout le monde se retrouve le dimanche soir. Il va falloir encore faire donc un accord à l'intérieur du parti, un accord à l'extérieur du parti avec des accords d'appareil avec les écologistes. Donc nous, de toute façon, on est très raccord depuis longtemps. On a pris nos responsabilités. Ça fait 6 mois qu'on est sur un projet en cohérence. Et s'il y a des ralliements, c'est des ralliements individuels, pas d'appareil ou pas de parti. Il n'y a pas de déception.
Bon, et ben on va en parler dans un instant justement de ce projet, parce qu'on attend justement aussi l'info à 20h20, Pierrick Bonneau.
François Fillon en campagne coûte que coûte. Le candidat de la droite à la présidentielle a repris la route aujourd'hui, presque comme si l'affaire Pénélope n'existait plus. Il était en déplacement à Juvisy en région parisienne, une visite centrée sur la sécurité, l'occasion d'évoquer l'affaire Théo. François Fillon parle de fautes qui doivent être sanctionnées, mais affiche son soutien aux forces de sécurité qui n'ont rien à voir là-dedans, selon lui. Un professeur de lycée catholique mis en examen à Saint-Nazaire en Loire-Atlantique, incarcéré pour viol et corruption de mineurs. Les deux victimes ne sont pas des élèves de l'établissement. La première, un garçon de 15 ans, aurait été violé par l'enseignant sur son ordinateur. Les enquêteurs ont aussi découvert des images pornographiques de mineurs. C'est ce que nous rapporte ce soir France Bleu Loire-Océan. Il y en a 3 seulement aujourd'hui. La liste des vaccins obligatoires pour les enfants de moins de 18 ans pourrait évoluer. C'est ce qu'explique ce soir le ministère de la Santé dans un communiqué. Des vaccins aujourd'hui simplement recommandés pourraient devenir obligatoires, celui contre l'hépatite B notamment. Les jeunes Français sont les plus pessimistes du monde sur l'avenir, devant les Italiens et les Turcs. C'est une enquête de la fondation britannique Varchi sur les jeunes nés autour des années 2000. Les jeunes Français figurent aussi parmi les moins contents de tous les sondés sur la surface du globe. 10% des 15-21 ans se disent même malheureux. Parmi les éléments qui dépriment notre génération Z, la montée de l'extrémisme, la crainte du terrorisme ou encore le manque de débouchés professionnels.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info avec ce soir Axel Tessandier, délégué national de En Marche, Julien Bayou, porte-parole d'Europe Écologie Les Verts, également Laurent Bazin, éditorialiste politique à TV5 Monde et David Boiry de la rédaction de France Télévisions. Nous parlons de la gauche où en ce moment se nouent quelques alliances. Justement, Laurent Bazin, moi j'aimerais bien avoir votre avis sur ce qui se passe en ce moment entre les écologistes et Benoît Hamon.
Là, vous avez une présentation romantique que Julien Bayou vient de faire et à laquelle il croit avec conviction, et c'est son engagement, et c'est bien, on en prend acte. Et puis il y a la réalité des faits qui est que son candidat décolle pas, ce qui, en vérité, crée une situation politique de rapprochement et d'abandon de candidature. Quand un candidat à la présidentielle explique qu'il pourrait y avoir une candidature commune, donc un abandon de candidature, en vérité, il jette l'éponge de facto. Parce que jamais on évoque ce genre de situation avant d'avoir éventuellement trouvé un accord. Donc, en gros, l'écologie politique aujourd'hui... Oh, oui, il n'y a pas d'accord encore. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure.
On est en train d'en discuter.
Voilà. Mais je pense que c'est un signal assez fort et que Benoît Hamon l'a bien entendu. Par ailleurs, Benoît Hamon, c'est un nouveau-né à l'écologie. C'était pas franchement son territoire. Donc c'est intéressant que les territoires se rapprochent. Il y a à la fois la conviction que vous avez émise tout à l'heure et que je mets pas en doute, que je mets pas en cause du tout. Et puis il y a la nécessité politique qui est qu'à un moment, il n'y a pas 2% à perdre dans une élection présidentielle comme celle-là qui va jouer au couteau et où le ticket pour le deuxième tour est autour de 20%. Et il suffira pas d'un rapprochement entre les écologistes et le candidat sorti de la primaire socialiste, qui d'ailleurs ne représente pas tout à fait tous les socialistes.
Il
faudra aussi que Mélenchon et Hamon se mettent d'accord, et pour l'instant, ils ne partagent que de bons cafés, pas
alors,
plus.
Justement, Julien, vous voulez répondre.
Oui, merci déjà de m'acter la sincérité.
Encore
sur le fait de faire un faible score, on y est habitué, donc ça, c'est pas la question qui change. Vraiment, la question qui change par rapport aux élections précédentes, et vraiment, j'insiste là-dessus, c'est que vous avez toute une partie de la gauche qui a acté post-croissance, post-plein emploi. Et quand vous écoutez Hamon, il ne sait pas qu'il met du vert à la fin de ses phrases. C'est que le raisonnement adopte un paradigme écolo, notamment pour arriver sur le revenu universel. Vous partez de la post-croissance, vous dites, il n'y a plus de croissance. C'était une exception grâce aux colonies, grâce à tout ce que vous voulez. C'est plus l'exception que la règle. Et donc maintenant, il faut travailler à une prospérité sans croissance. Ce que plein d'autres, notamment Macron, n'ont pas encore compris. Mais ça progresse énormément dans la société. Et ça, il faut l'acter.
Ah ouais, je comprends.
Oui, moi je veux bien, tout à fait bien croire au point commun qu'il peut y avoir entre écologistes et le candidat socialiste. Je pense que la vraie difficulté aujourd'hui, c'est de trouver les points communs au sein du Parti socialiste. Entre les fameuses deux gauches dites irréconciliables.
Et qui le sont,
d'un côté, des personnes qui, pendant tout le quinquennat, ont bataillé contre le gouvernement. Enfin,
donc ceux qui ont gagné, en fait, finalement.
Ceux qui ont gagné.
Et qui ont gagné. Et je n'ai toujours pas vu de rapprochement réellement, de véritable négociation entre ces deux camps.
Mais il n'y en aura pas. Mais
du coup, quel est l'intérêt de faire une union avec les écologistes s'il n'y a déjà pas de rassemblement au sein du Parti socialiste?
Alors,
je ne sais pas,
c'est une question. C'est une question, en effet. Alors, aussi,
mettre la pression sur Mélenchon.
Vous l'avez dit, Laurent, donc avec Mélenchon, ça se passe. Bon, il y a des cafés, qui se prennent.
Des bons cafés.
Mais Accepte et Sandier, on se souvient, pendant la primaire de la Belle Alliance Populaire, je vous le dis parce que je sais que vous ne l'avez pas regardé. Je sais que vous regardez ça de loin.
Non, j'ai dit de loin.
De loin avec des grosses jumelles.
Benoît Hamon disait finalement, pourquoi ne pas discuter avec Emmanuel Macron? On sent qu'aujourd'hui, il y a un froid total entre les deux.
Mais là, on est assez loin.
Voilà, mais pourquoi finalement cette discussion ne peut pas se faire?
Mais parce que nous, on est sur une cohérence de projet, une cohérence de vision.
Projet est incohérent chez Hamon.
Par exemple, ça vous a pas échappé que le revenu universel, on n'est pas trop pour. Enfin, le revenu universel jeune, enfin le nouveau RSA jeune que va proposer Benoît Hamon, c'est pas trop notre truc. Donc voilà.
C'est un peu du dédain parce que
c'est un projet autrement plus important.
Et par ailleurs, si on pouvait offrir le RSA aux 18-25 ans, on aurait peut-être moins de misère en France tout court. Donc je crois que c'est vraiment dommage.
Non, mais ce que je veux dire. Sur la taxe des robots, etc. C'est très loin de notre vision du travail, de ce qu'est la robotisation, de ce que va être les changements de l'emploi, du travail, etc. Donc non, il n'y aura pas d'accord possible là-dessus. Et d'ailleurs, Benoît Hamon, le soir même de sa victoire, c'est plutôt vous qui l'avez été voir et Mélenchon que nous. Donc je veux dire là-dessus,
c'est deux approches différentes.
Ouais,
c'est deux visions même de la société qui sont différentes.
Si on peut se passionner
le progressisme et le socialisme ne sont pas la même
chose. Deux secondes pour la politique, ce que vous faites l'un et l'autre, et nous comme commentateurs, c'est assez enthousiasmant d'avoir un vrai débat avec deux projets de société.
Exactement.
Vous avez d'un côté une société post-travail.
Et croissance.
Donc le revenu universel, c'est on va s'arranger parce qu'il n'y a plus d'emploi pour tout le monde.
Plus plein emploi, parce qu'en fait du travail il y en a, mais il n'est pas payé pour les stagiaires, les freelances,
etc. On sera en décroissance, on fonctionnera autrement, projet de société. Et puis de l'autre côté, et il est plus largement d'ailleurs partagé, y compris avec la droite, il y a une société du travail, de relance du travail,
de facilitation
de l'entreprise,
non, d'une économie d'innovation, une économie pas de rattrapage.
Je vous dis la même chose. On dit sensiblement la même chose.
Mais il n'y a pas de fatalité.
Vous dites chez Macron c'est l'ubérisation, eux ils disent, chez Hamon et chez les Verts, en gros, non.
Non, eux. Je pense, j'espère que vous dites.
Et vous dites, vous êtes très gentil, mais en gros, c'est le boulot, c'est de conquérir du travail. Donc c'est deux fronts. Mais c'est deux fronts.
Non, mais bien sûr, vous êtes très bien en juge de paix. Voilà, Laurent Bazin, c'est formidable. On va continuer à en parler, mais on va aussi également parler ce qui se passe à Aulnay-sous-Bois. On reviendra sur les cotaxes dont on a déjà un petit peu parlé par rapport à des positions de députés. Voilà le beau programme à suivre dans les informés de France Info.
Chaque jour,
vous êtes 4 758 000 auditeurs à écouter France Info.
Installé sur le terrain d'une ancienne usine de traitement des eaux en bord de Seine, le centre est encore en plein travaux. Les nouveaux arrivants pourront rester entre 3 et 5 mois avant d'être transférés dans des centres pour demandeurs d'asile.
Les Français sont champions du monde et enfin les experts désormais éternels. Incroyable.
Dans les peintures, les dentifrices, les crèmes solaires, les produits électroménagers et les textiles, les nanoparticules sont partout. Ces tout petits composants qui sont 50 000 fois plus fins qu'un cheveu.
France Info.
Deux points, ouvrez l'info.
France Info Météo, avec VK, concepteur de fenêtres PVC, performante et design, pour tous vos projets de construction et de rénovation. VK, VEKA.fr.
Et à Météo France, on retrouve Elodie Calac.
Un temps maussade demain sur une grande partie du pays. Ce sera très nuageux avec en prime du brouillard, un peu de bruine, quelques flocons vers l'Auvergne, le nord de Rhône-Alpes le matin. On aura quand même des éclaircies de la Bretagne au sud-ouest. On pourrait retrouver quelques rayons de soleil aussi vers les frontières du nord dans l'après-midi. Sur les Pyrénées, le Languedoc-Roussillon, la basse vallée du Rhône, ce sera du soleil dès le matin. Ça soufflera encore en Méditerranée, 70 km à l'heure pour le Mistral et la Tramontane. Et puis dans l'extrême sud-est, ce sera instable. Quelques averses des Alpes à la Côte d'Azur, des averses soutenues et orageuses en Corse, avec beaucoup de vent, 90 km à l'heure. On aura de la neige à partir de 1100 mètres. Il fera plus frais, retour de petites gelées sur la plupart des régions, encore 4 à 8 degrés dans le sud-est. L'après-midi, seulement 3 degrés à Lille et Nancy, 6 à Deauville et Lyon, 7 à Paris, Limoges, 8 à Brest, 10 degrés à Bordeaux, 13 à Montpellier, Nice et 14 à Ajaccio.
France Info.
Deux points, ouvrez l'info.
Et l'info à 20h30, c'est Emmanuel Langlois, bonsoir.
Bonsoir, les premières comparutions immédiates cet après-midi suite aux violences d'Aulnay-sous-Bois. 6 majeurs devant le tribunal de Bobigny, soupçonnés d'avoir commis des violences sur des policiers après l'interpellation du jeune Théo, 22 ans. Parmi ces prévenus, un jeune homme de 20 ans. Il est suspecté lundi soir d'avoir jeté des pierres sur les fonctionnaires. La procureure de la République a requis 10 mois de prison avec sursis et 3 ans d'interdiction de porter ou de détenir une arme. David Di Giacomo.
Dans son réquisitoire, la procureure insiste, ces violences qu'elle qualifie de guérilla urbaine sont injustifiables. Leur but, ajoute-t-elle, c'est de faire mal, de faire peur, de faire une démonstration de force. Riyad, jeune prévenu de 20 ans au casier judiciaire vierge, arrive dans le box en survêtement de l'équipe de France de foot. Il reconnaît avoir eu envie de se rendre à la cité des 3000 d'Aulnay-sous-Bois lundi soir. On lui reproche d'avoir jeté une pierre sur un groupe de policiers, lui affirme avoir seulement assisté aux échauffourées. Au début de la soirée de lundi, il échangera pourtant plusieurs SMS évocateurs. « Tu vas aux 3000 ?» lui demande un ami. « J'ai envie d'y aller, frère », répond Riyad. Et d'envoyer ensuite ce message à sa sœur aînée. « Si je ne rentre pas, c'est que je suis en garde à vue. Tu fais pitié », lui rétorquera-t-elle. 5 autres jeunes sont jugés en ce moment pour avoir tendu une embuscade aux policiers. Au tribunal correctionnel de Bobigny, David Di Giacomo, France Info.
L'Égyptien de 29 ans qui a attaqué vendredi des militaires au carrousel du Louvre à Paris a continué de parler aux enquêteurs. Il affirme avoir agi sans être commandité par le groupe État islamique, mais de son plein gré pour mener une action symbolique contre la France, dégrader des œuvres du musée. Une version qui peine à convaincre les enquêteurs pour qui il assume une certaine adhésion aux thèses de Daesh. Dans ce contexte, les députés adoptent le projet de loi sur la sécurité publique. Le texte assouplit les règles de légitime défense et d'utilisation des armes par les policiers. Il durcit aussi les peines pour outrage et autorise l'anonymat des enquêteurs. La Cour des comptes publie son rapport annuel, document très attendu, dans lequel cette année elle épingle de graves dérapages, notamment sur l'écotaxe, ou encore la gestion d'organismes comme le Muséum d'Histoire Naturelle ou l'Ordre des Chirurgiens Dentistes. Le porte-avions Charles de Gaulle, remorqué jusque dans un bassin de la base navale de Toulon, il va y subir pendant un an et demi, des travaux d'entretien et de rénovation, un chantier hors du commun pour la marine. Des rebelles syriens soutenus par les forces armées turques ont pris aujourd'hui le contrôle de collines stratégiques entourant la ville d'Al-Bab, toujours aux mains des combattants de l'État islamique en Syrie. Une soixantaine de djihadistes auraient été tués lors de frappes aériennes menées par l'armée turque. C'est une étape clé vers la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Les députés britanniques doivent voter dans la soirée pour autoriser la première ministre Theresa May à activer le processus du Brexit le mois prochain. Et puis trois juges de San Francisco ont entendu aujourd'hui les arguments du gouvernement de Donald Trump, le président américain, qui a fait appel à la suspension de son décret. Il est 20h33.
20h21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info jusqu'à 21h sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux avec le hashtag Les Informés et sur le canal 27 de la TNT. Et ce soir, le ventre grouillant d'infos, ils se sont assis autour de la table des informés de France Info et nous y trouvons Axel Tessandier qui... Excusez-moi, pardon.
Non, j'avais pas compris le ventre grouillant d'info.
Vous n'avez pas le ventre grouillant d'info?
Si, si, absolument.
Parce que pourtant, on avait précisé ça dans la note. Non, c'est pas ça. Ah, d'accord.
Je suis très déçu.
C'était bon, vous êtes toujours délégué national du mouvement En Marche.
Toujours.
D'accord. Jusqu'à présent, jusqu'à 20h33.
Pour le moment.
Pour l'instant, d'accord. On ne sait pas ce qui se passe à 34, en tout cas. On retrouve également Julien Bayou, porte-parole d'Europe Écologie, Les Verts, Laurent Bazin.
On a le projet de Macron.
Éditorialiste politique à TV5 Monde et David Bouhery de la rédaction de France Télévisions. Et aujourd'hui, la Cour des comptes a rendu son rapport annuel et c'est super. Bon, enfin, c'est pas l'événement littéraire de l'année non plus, mais c'est intéressant. Par exemple, les sages de la rue Cambon épinglent de nombreux secteurs, les formations professionnelles qui ne sont pas assez surveillées, les accidents médicaux qui augmentent, le zoo de Vincennes qui serait mal géré, comme la ville de Levallois-Perret. Alors juste, ces deux informations n'ont rien à voir entre elles, hein, mais bon, elles se succèdent. Autre point, l'abandon de l'écotaxe qui a coûté 1 milliard d'euros en indemnisation. C'est un peu cher, oui, je vous le confirme. Et on voit ça à 20h45, car avant, on va parler de l'affaire qui secoue tout le monde en ce moment. C'est celle d'Aulnay-sous-Bois. La nuit dernière a été plutôt calme dans la ville de Seine-Saint-Denis, alors que des incidents ont par ailleurs éclaté dans les autres villes du département. L'appel au calme de Théo semble avoir été entendu. Théo, alors on ne dit pas son nom de famille, juste son prénom, ce jeune homme de 22 ans, aujourd'hui hospitalisé, après un contrôle de police qui a totalement dégénéré il y a 5 jours de cela, 4 policiers sont impliqués dans ces violences. Un est poursuivi pour viol, une histoire effrayante qui a fait réagir de nombreuses personnalités, des artistes et désormais des politiques. Alors, gauche et droite demandent des sanctions exemplaires, tout le monde, sauf Marine Le Pen.
Moi, je vais vous dire mon principe de base. Mon principe, c'est d'abord, je soutiens les forces de police. Voilà.
Et ce type de comportement.
Et de gendarmerie. Sauf démonstration par la justice qu'ils ont commis un délit ou un crime.
Voilà, Marine Le Pen, hier, sur LCI, Axel Tessandier, je vous voyais agir la déclaration de Marine Le Pen.
Oui, non, mais je veux dire, les faits, enfin, c'est infâme, c'est scandaleux, c'est horrible. Donc, je veux dire, il ne s'agit pas de jeter l'opprobre sur une profession. Mais je veux dire, là, ils sont dépositaires de l'autorité de l'État. Oui, oui. Ils doivent être exemplaires en toutes circonstances. Ce qui s'est passé est abominable. Il y a une accusation de viol. Donc voilà, moi je veux dire aussi que j'ai trouvé que Théo et sa famille étaient exemplaires sur les appels au calme. C'était impressionnant. Ce qu'on voit bien, qu'on peut avoir tous des réflexes de haine contre la haine, de violence contre la violence. Donc ce qu'ils ont fait était impressionnant et je suis très admiratif. Et voilà, et j'espère effectivement la justice doit passer vite et que les sanctions seront exemplaires.
Alors, Laurent Bazin, hier, François Hollande s'est rendu au chevet justement de Théo. Est-ce que pour vous, il devait le faire, finalement, en tant que président de la République?
Comme... À quoi ressemble l'agenda du président de la République en ce moment? Je ne sais pas trop, pour être honnête. Et c'est pas mal que le président de la République, pour le coup, ait été marqué de sa présence... Le drame qui s'est joué, d'autant qu'il y a eu un tout petit moment quand même de latence avant la réaction officielle dans cette affaire. Voilà. Le ministre de l'Intérieur, notamment le Premier ministre, ont eu un petit temps de retard sur cette affaire. C'était pas mal que le président le signale de cette manière symboliquement. Ça sert à ça aussi le président de la République. C'est du symbole, donc ça envoie du symbole. Le mot très important que vous avez dit, et je suis tout à fait d'accord avec ça, c'est exemplaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas dans cette affaire un soupçon de quoi que ce soit qui permettrait de dire que c'était pas effectivement abominable et scandaleux. Personne ne peut tirer un fil en disant mais ce type était un multirécidiviste ou un récidiviste ou un petit délinquant. Il y avait une course-poursuite avec la police. Ça s'est joué dans d'autres affaires, dans d'autres affaires comme ça.
Ça n'aurait pas été une excuse non
plus. C'est impossible. Non?
Non.
Ça n'aurait rien excusé du comportement des policiers. C'est pas ça que je suis en train de dire.
Le fait qu'il n'ait pas de casier judiciaire ou un casier judiciaire.
Ça n'aurait rien excusé. Non. Mais ça aurait fait que la classe politique ne se serait pas forcément comportée de la même manière parce que certains auraient essayé de tirer les marrons du feu autrement. Là, au contraire, tout le monde dit, un, sanction exemplaire, comme vous l'avez dit, mais ça, tout le monde le dit. Même Marine Le Pen, sauf qu'elle attend que la justice se soit prononcée, mais ça, c'est une position asystème ou antisystème, parce qu'il faut bien qu'elle trouve des positions antisystèmes, vu comme elle a tenté de banaliser en vérité la position du Front National sur l'échiquier politique. Et deux, ce qui est intéressant, c'est que tout le monde essaye non pas de tirer les marrons du feu, mais d'apaiser le feu. Pourquoi ? Parce qu'en vérité, c'est détonnant dans une campagne électorale. Si ce qui se passe en ce moment dérape dans les banlieues, vous avez... Mais franchement, vous ramenez en vérité des bûches au foyer, encore une fois, de Marine Le Pen, qui sera la seule à en profiter. Et ça, la droite et la gauche le sait parfaitement.
Oui, et puis en plus, pour continuer sur ce thème-là, d'ailleurs, en fait, c'est d'autant plus compliqué à gérer que c'est dans un contexte un peu particulier, avec les risques d'attentats, enfin, les forces de l'ordre qui sont sur le terrain en première ligne, très sollicitées tout le temps, etc. Donc, il y a un équilibre à trouver. C'est vrai que on est toujours tous prêts à rendre hommage à leur engagement, à tout ce qui est fait sur le terrain pour nous protéger tous. Et puis, voilà, d'où la difficulté après de comment gérer ce qui, vraisemblablement, est plus qu'une bavure.
Julien Bayou, aujourd'hui, clairement, quand on parle de bavure policière, de violence surtout policière en France, il y a eu un rapport qui a été mené par l'ACAT. Alors l'ACAT, c'est l'Action chrétienne pour l'abolition de la torture. Et ils publient un rapport l'année dernière sur les violences policières en France. Et eux, ils ont fait ce constat, c'est qu'on parle d'opacité totale de la part du ministère de l'Intérieur concernant des chiffres. Oui. Sur, concernant les violences policières.
Mais alors, ça a été évoqué, le silence du ministère de l'Intérieur dans l'immédiat après le...
Temps de retard, oui.
Oui, le silence.
Oui, c'est entretenu un peu la tension.
Comme on avait eu un silence impossible après la mort de Rémi Fraisse, comme le ministère de l'Intérieur a réagi de manière insensée après la mort d'Adama Traoré, etc., etc. À chaque fois, il faut d'ailleurs souligner la dignité des familles, comme ça a été fait, parce que c'est grâce aux frères et sœurs que ça ne s'embrasse pas. Moi, j'ai le même souci dans le 10e arrondissement. On attend d'avoir un juge d'instruction sur Amadou Koumé qui est mort au commissariat du 10e. On n'a pas d'infos et ça fait un an et demi. Et on attend un juge d'instruction et ça n'avance pas. Et en fait, si on en a une lecture politique, il y a 12 ans, Zinedine Bouna sont morts et, parce qu'ils couraient pour échapper aux flics, parce qu'ils en avaient peur. Et rien n'a s'est amélioré. Et la simple promesse de mettre fin aux discriminations et au contrôle faciès, ça a été enterré par Manuel Valls. Oui. Le fameux récépissé qui permettait de lutter contre les discriminations les plus manifestes. Et je crois qu'on a perdu énormément de temps. Et là, ces violences, ça entache toute l'institution police. Alors, et ça, c'est le pire qui puisse arriver dans une société.
Alors, on va continuer à en parler dans un instant. L'info à 20h40, Pierrick Bonneau.
Bernard Cazeneuve réaffirme la position du gouvernement vis-à-vis des forces de l'ordre. Lorsqu'il y a des manquements, il doit y avoir la plus grande fermeté. Le Premier ministre est revenu cet après-midi sur l'interpellation musclée du jeune Théo, il y a presque une semaine à Aulnay-sous-Bois. 6 personnes sont jugées en ce moment pour des violences. Les soirs qui ont suivi son interpellation en Seine-Saint-Denis. La présidente de la région Occitanie porte plainte après avoir reçu des menaces de mort. Information de nos confrères de France Bleu Hérault. Des menaces liées directement à des incidents qui ont éclaté la semaine dernière lors de la session du conseil régional à Montpellier. Une vive altercation entre Carole Delga, la présidente de la région, et un élu du Front National. Depuis, un internaute a posté un message sur le site du conseil régional où il dit notamment espérer que toute la famille de Carole Delga se fasse égorger dans un attentat. Fin de citation. Donald Trump dénonce une justice politisée. Le président américain embourbé dans son décret anti-immigration suspendu par des magistrats critique désormais le monde judiciaire de son pays. La cour d'appel de San Francisco doit rendre d'ici la fin de semaine un arrêt très attendu sur ce texte provisoirement suspendu donc la semaine dernière. Vous connaissez certainement cet outil Safety Check qui permet de vous signaler en sécurité quand vous êtes dans une zone touchée par un attentat ou une catastrophe. Eh bien Facebook innove et offre désormais la possibilité à ses utilisateurs de demander de l'aide ou de prêter main forte en cas de crise majeure, de la nourriture, un abri ou un moyen de transport.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, nous parlons d'Aulnay sous bois, de ces violences policières. Et c'est un contexte un peu particulier, parce qu'il y a le contexte en effet politique, on l'a dit, mais aujourd'hui à l'Assemblée nationale était examiné le projet de loi sécurité publique. Alors c'est vrai que l'Assemblée nationale en ce moment on n'en parle plus trop, parce que beaucoup de députés ne sont plus trop présents, et c'est bientôt la fin de la session parlementaire, mais c'est, souvenez-vous, une réponse aux manifestations de policiers à l'automne dernier. Alors point fort de ce texte, l'extension de la légitime défense, et là, ça, Laurent Bazin, on a vu que certains craignent des avocats, des droits de l'homme, craignent carrément un dérapage sécuritaire. Ce qu'on dit souvent, d'ailleurs, autour
de cela. Oui, alors c'est des mots que j'entends depuis que quand j'étais étudiant en journalisme, on parlait déjà de dérapage sécuritaire ou d'idéologie sécuritaire, donc je me méfie des mots. L'équilibre est extrêmement délicat et il est extrêmement instable. Je pensais notamment au quartier dont on parlait tout à l'heure. Moi, je ne crois pas que les dérapages d'Aulnay entachent toute l'institution. Je crois pas que le fait d'avoir quatre brutes, quatre voyous parmi les policiers entache le reste de l'institution.
Et on est pas ailleurs, concerné, on n'est pas concerné à cette table. Moi, je me fais très peu contrôler.
Oui, bien sûr. Bah, on est blanc.
Voilà. Ouais, c'est ce qu'il y a d'ici. Je tenais juste à dire que Juliette Méadel, secrétaire d'État aux victimes, parlait probablement de raisons de racisme. Voilà, clairement. Voilà.
D'accord. Je veux dire que l'équilibre est délicat parce que c'est extraordinairement pénible de se retrouver discriminé par des gens qui vous contrôlent régulièrement parce que vous êtes noir ou arabe, on va dire les choses assez clairement. Et par ailleurs, c'est pas très simple d'être policier dans des quartiers, généralement avec assez peu d'expérience, confronté à une tension qui est relativement importante, à une demande liée à l'état d'urgence qui est extrêmement importante, d'être mobilisé par ces... Voilà. Donc, je n'excuse personne, je dis pas qu'il y a des gentils et des méchants, Je dis juste que c'est un équilibre très instable et que le législateur et le politique doivent être extrêmement prudents quand ils touchent à ces sujets et qu'il va falloir trouver des terrains d'entente parce que c'est une question de contrat social à un moment et sans doute ce sera une question de paix civile dans des moments qui seront plus difficiles que ceux qu'on vit aujourd'hui parce qu'encore une fois, à Aulnay, on est tombé sur des gens de la famille aux policiers d'ailleurs du commissariat d'Aulnay jusqu'au maire d'Aulnay, Bruno Béchiza, qui est un ancien CRS qu'on a connu sur des positions plus dures, assez remarquable et exemplaire de ce qu'il faut faire face à des sujets comme cela.
Jean Mayou.
Oui, mais là, c'est l'iceberg. C'est-à-dire qu'il y a eu des images, donc on sait, il y a eu des témoignages et des voisins. Mais l'immense majorité de ces violences, parce qu'il y en a, de ces discriminations, parce qu'il y en a beaucoup, elles passent sous silence. Et pour ceux qui se plaignent, c'est des outrages et c'est des condamnations, etc. C'est-à-dire que les victimes sont condamnées. Et je crois que c'est extrêmement important. Il y avait la police de proximité qui permettait de faire un travail, et notamment de renseignement, et notamment d'avoir une présence humaine sur le terrain. On n'est plus que dans l'intervention, c'est les cow-boys. C'est les logiques aussi de cow-boys, hein, on voit Manuel Valls, mais c'est aussi les cow-boys de la police municipale. C'est souvent des jeunes recrues qui sont mal formés, parce qu'il n'y a pas de moyens.
Je suis d'accord avec
quand
ça.
Quand vous discutez avec les polices, avec la police municipale, on a fait quoi? En fait, on a équipé d'armes de guerre tous les commissariats. En vrai, quand vous discutez, ils n'ont pas les talkie-walkie.
Enfin, on l'a vu au moment de Viry Châtillon.
Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens.
C'est bizarre, et moi, policière.
On est dans une frénésie de loi sécuritaire. Excusez-moi, oui, c'est vrai. Et l'état d'urgence, oui, c'est vrai. C'est une frénésie de loi sécuritaire. Et moi, je dois saluer le courage des quelques députés qui se sont opposés. C'est Amir Chahi, c'est Noguès, c'est les députés écologistes. Parce que qu'est-ce qu'on va faire? On va armer. Qu'est-ce qui serait passé s'il n'y avait pas eu de caméra ou s'ils avaient eu des armes? Enfin, hier, on a tiré à balles réelles à Aulnay.
En tir de sommation.
En tir de sommation. Oui, mais enfin, on devrait en arriver là. Et je crois que c'est extrêmement dangereux de banaliser ça, au contraire.
Accepter son
dit. Moi, je rejoins complètement Julien sur, effectivement, il n'y a plus de dialogue. On est dans la répression. La police de proximité, la police de la vie quotidienne, elle est nécessaire. Il faut que le dialogue... On sent bien les tensions. On sent bien le dialogue ne se fait plus, la défiance des deux côtés. Donc, il faut absolument régler ça sur le long terme. Je suis absolument d'accord. Là, je rejoins complètement Julien. De ce point de vue-là.
Mais en même temps, il faut quand même aussi donner les moyens aux forces de l'ordre de pouvoir intervenir en cas d'urgence.
Mais c'est quand même aussi les
règles d'engagement et de...
Et pas seulement en cas d'urgence. C'est-à-dire qu'il faut leur donner les moyens tout court de faire leur boulot parce que c'est ça aussi qui, à un moment, crée de la tension et du dérapage. C'est le fait que ces flics travaillent, franchement, avec des moyens qui ne sont pas à la hauteur ni de la situation, ni même de l'exercice normal de leur
métier. Il y a une vraie misère dans les commissariats en France.
Mais on ment aux flics quand on leur dit c'est avec une arme de guerre. Oui, pardon, aux policiers. On leur ment quand on leur dit c'est avec une arme de guerre qu'on va faire quoi que ce soit, alors que
ils sont pas aboutis, j'en discutais avec le commissaire, ils vont pas ouvrir le feu non plus au FAMAS sur les
mais voilà. Non, mais la voie par exemple dans mon arrondissement il y a que deux voitures Bon, bah voilà, donc bah, on parle de vrais moyens d'intervention.
On dit la même chose.
Et moyens humains. Mais avec un permis de tuer ou avec des armes de guerre, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas comme ça.
C'est-à-dire
qu'après, il y a un autre sujet.
Finalement, vous dites plus que la légitime défense faudrait davantage de moyens, tout simplement. Enfin, voilà, c'est vraiment les moyens matériels
et de policiers. Et de policiers formés. Parce que, un peu comme avec les. Toute proportion gardée, avec les profs, c'est les profs et les jeunes flics. Policiers qu'on envoie dans les quartiers.
Ils sont en première ligne, d'une certaine manière. Voilà. Ils sont en première ligne.
On va parler maintenant, on va passer d'un tout autre sujet, on va parler un peu d'économie et on va parler de la Cour des comptes, hein, parce que c'est ce qu'on appelle un combo. Voilà, si vous jouez aux jeux vidéo, hein, vous savez que quand vous réussissez finalement trois enchaînements, hop, vous gagnez combo. Et ben pour la Cour des comptes, ça s'appelle simplement l'écotaxe, le combo. Dans son rapport rendu aujourd'hui, la Cour des comptes dénonce un fiasco politique, économique et environnementale, hein, après l'abandon de l'écotaxe. Souvenez-vous, l'écotaxe, il s'agissait d'introduire le concept de pollueur-payeur au transport routier. Fronde des bonnets rouges en Bretagne en octobre 2013, recul du gouvernement, puis abandon total par la ministre de l'écologie Ségolène Royal un an plus tard. Coût au total pour l'État près d'€1 milliard, notamment en indemnisation versée à la compagnie Ecomove, donc chargée de la mise en œuvre de cette taxe, et ses partenaires. Alors, est-ce qu'on peut dire un gâchis? Ça serait surtout une mesure de sécurité publique, selon le porte-parole du gouvernement, Stéphane Le Foll.
On avait à faire face à une contestation qui engageait aussi des frais importants que la Cour des comptes a tendance un peu à oublier. Alors, qu'est-ce qui serait passé si on avait poursuivi jusqu'au bout? Qu'est-ce que ça aurait été, quelle aurait été la situation? Je n'en sais rien. Je sais qu'à l'époque, cette situation est suffisamment délicate et difficile à gérer pour que une décision qui peut être contestée, de retrait de cette mise en place de l'écotaxe a été prise. Il ne faudrait pas oublier tout ça, parce que le rapport de la Cour des comptes, il vient après, comme si c'était rien passé.
Alors voilà, c'était Stéphane Le Foll ce matin, porte-parole du gouvernement. David Bouhari, quand vous entendez ça, finalement, c'est une mesure de sécurité publique. On a arrêté l'écotaxe pour ça, pour calmer tout le monde?
Ah non, absolument pas. Ça, c'est vraiment une façon de défendre cette bérésina qui est... un peu trop visible. Enfin, je veux dire, la couture est un peu trop importante. Vous connaissez la double peine. Là, c'est, en fait, sur cette histoire, la double facture. C'est-à-dire que c'est une mesure qui, au final, ne rapporte rien, mais qui, en plus, a coûté 1 milliard. Et donc, par rapport au départ, l'idée, vous l'avez rappelé, qui était
pollueur-payeur,
de faire payer le pollueur, au final, tout ça a totalement disparu et... au lieu que ce soit le transport routier, pour parler des poids lourds qui sont sur les routes, qu'ils soient français ou étrangers d'ailleurs, et qui donc logiquement auraient dû financer les infrastructures routières en France, ce sont au final nous tous en tant qu'automobilistes qui allons payer.
Voilà, et notamment et également aussi ceux qui manifestaient finalement, puisque finalement avec.
Mais la gestion de tout le dossier de A jusqu'à Z, elle a été désastreuse.
Alors on va voir ça en détail.
Vraiment désastreuse.
On va voir ça en détail dans un instant à propos de cette écotaxe. Mais l'info à 20h50, c'est Pierrick Bonneau.
Les députés approuvent ce soir le projet de loi de sécurité publique. C'est ce texte qui assouplit les règles de légitime défense pour les policiers, durcit les peines pour outrage aux forces de l'ordre et autorise l'anonymat des enquêteurs. Il doit encore passer devant le Sénat, mais devrait être définitivement adopté d'ici la fin de la session parlementaire à la fin du mois. La Cour des comptes appelle à redoubler d'efforts dans la maîtrise des deniers publics. Dans son rapport annuel, Didier Migaud, le président de la Cour épingle de graves dérapages, notamment sur l'écotaxe. L'abandon de cette mesure va coûter à l'État près d'€1 milliard, rien qu'en indemnisation, avec des conséquences probablement très durables selon lui. La Cour des comptes déplore un pilotage du projet centré sur des objectifs de court terme et parle de gâchis. 11 interpellations la nuit dernière à Bruxelles et dans son agglomération dans une affaire de terrorisme. On l'apprend par un communiqué du parquet fédéral belge. Des combattants potentiellement de retour de Syrie. Selon le parquet, ce dossier est totalement distinct des attentats de Paris ou de Bruxelles. Enfin, méfiez-vous des taux de réussite au permis affichés par certaines auto-écoles. L'UFC Que Choisir a comparé avec les données officielles du ministère de l'Intérieur et les écarts sont parfois surprenants. Du simple au double, selon l'association, 70% des auto-écoles mentent sur le taux de réussite de ses élèves à l'examen du permis de conduire. L'UFC Que Choisir vient de saisir la répression des fraudes pour que les auto-écoles aient l'obligation d'affichage des données officielles.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, nous parlons donc de ce rapport de la Cour des comptes et notamment de l'abandon de l'écotaxe qui a coûté à l'État près d'€1 milliard d'indemnisation. Alors les mots de la Cour des comptes sont assez durs, hein. Échec de la politique publique, décision prise dans la précipitation. Aujourd'hui donc c'est un échec pour économique, environnementale, politique, Laurent Bazin. Là on a l'impression juste que c'est un fiasco total et pas du tout, comme le dit explique Stéphane Le Foll.
L'écotaxe, c'est né c'est d'une réflexion au moment du Grenelle de l'environnement,
oui, c'est ça.
Notamment d'une proposition des écologistes, enfin des organisations non gouvernementales d'ailleurs, d'environnement qui étaient présentes, qui avaient été saisies par Nathalie Kosciusko-Morizet au Bon. Elle avait vendu l'histoire de l'écotaxe et elle avait lancé l'idée qui paraissait une belle idée. Le gouvernement change, plutôt le président change, le nouveau gouvernement.
Donc c'était Nicolas Sarkozy, François Hollande.
La gauche arrive. Et
une
elle se retrouve.
À l'Assemblée quand même.
Oui, absolument. Comme, je vous rappelle, comme sur la taxe carbone 3 ans plus tôt. Oui, lancée par Borloo, après le Grenelle de l'environnement, puis pouf, pareil, explosion en vol. Les unanimités, il faut s'en méfier, et puis surtout, il faut vérifier le terrain 2 secondes. Ségolène Royal arrive, non plus exactement pas Ségolène Royal au début, mais la gauche arrive, patauge un peu dans cette affaire-là, et puis...
Et Jean-Marc Ayrault finalement aussi refuse. Voilà,
c'est Jean-Marc Ayrault a du mal à mettre d'accord son gouvernement, parce qu'il y a ça aussi, toujours pareil, il y a la gauche, la gauche des rationnels, la gauche des réalistes contre la gauche des écologistes, etc.
Je sais que c'est pas réaliste d'annuler l'écotaxe, pardon, parce que l'Allemagne l'a mis en place, et ça fonctionne.
On savait,
c'est le pays même l'ont mis.
Et la vérité pure, c'est qu'il y a eu des troubles à l'ordre public, et qu'en France, quand il y a trouble à l'ordre public, à un moment, la puissance publique fait demi-tour.
Oui, mais
on va pas être d'accord avec Julien, on l'a vu aussi sur Notre-Dame-des-Landes, de la même manière. Et elle fait demi-tour. Et quand la puissance publique, je vais finir d'un mot, quand la puissance publique fait demi-tour, elle sait parfaitement combien ça va coûter, parce que c'est un dédit à la société qui est fixée par avance. Donc le milliard, c'est pas du tout une révélation de la Cour des comptes aujourd'hui. Ouais, quand le politique prend sa décision, il sait que ça va coûter 1 milliard.
Julien Bayou.
Oui, moi, ça me choque là quand vous parlez de gauche réaliste et que vous les opposez aux écologistes. L'Allemagne l'a mis en place.
C'est comme ça qu'ils se définissent.
Oui,
c'est
pas comme ça que vous pouvez le colporter. L'Allemagne l'a mis en place et c'est pour ça, si on veut revenir au fond de l'histoire, que l'Alsace a voulu l'expérimenter en 2005. Et comme le fisc ne voulait pas que ça lui échappe, il a dit dans ce cas-là, on va le nationaliser. Si vous voulez revenir au début de l'histoire.
C'est bien.
Mais par contre, c'est un vrai recul et on n'a pas du tout abordé deux sujets. C'est que, un, ça coûte de l'annuler. Deux, le manque à gagner en financement de transport collectif. Et trois, et personne ne l'a abordé, c'est le coût sanitaire. C'est-à-dire que quand on continue de polluer, eh bien, c'est du diesel, c'est des particules fines, c'est de l'asthme, c'est des maladies cardiovasculaires. Et ça, c'est un coût qu'on ne peut pas chiffrer, mais ça se chiffre. Enfin, c'est des décès, c'est des séjours à l'hôpital, etc. C'est un fiasco complet,
rappelons
y compris sanitaire.
C'est l'époque du ras-le-bol fiscal et que l'écotaxe.
Acceptez sans justement. Ouais, quand vous voyez Ségolène Royal aujourd'hui, ministre de l'écologie, ministre de l'environnement, pardon, qui aujourd'hui défend cet abandon en disant ça coûtait trop cher, c'est compliqué. Ségolène Royal qui s'oppose souvent à Anne Hidalgo d'ailleurs sur la circulation alternée en disant moi je suis contre une écologie punitive. Finalement, et qu'est-ce que vous en pensez de ce terme punitif pour vous? Ça veut dire que dès qu'on met quelque chose en place, on a l'impression que c'est punitif?
Non, enfin, effectivement, le terme n'est pas très bien choisi. Alors, sur l'écotaxe, oui, en fait, c'est un renoncement. C'est-à-dire, sur le fond, le problème demeure. Bon, le gouvernement a remboursé. Effectivement, ce n'est pas une découverte, le prix que ça a coûté. Sur le fond, le problème est là.
Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont découvert, quand même. Hein. 1 milliard,
oui,
c'est quand même...
Oui, bien sûr, bien sûr.
On l'a beaucoup dit à l'époque, oui, mais
nous, on continue à poser l'écotaxe.
Les poids lourds étrangers ne payent pas, et c'est finalement l'automobiliste français qui doit y faire face. Donc oui, est-ce que tout l'écologie doit se penser en termes punitifs et en termes de taxes? Non, pas uniquement du tout. Mais effectivement, là, c'est un renoncement.
Mais c'est pas punitif.
Non, bien sûr.
C'est l'absence d'écotaxe qui est punitif.
Absolument, oui, mais c'est l'idée de taxe carbone, écotaxe, etc.
Il faut juste préciser une chose. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le transport routier ne paye pas l'usage de la route. Et donc, l'écotaxe, c'était ça. C'était de permettre, encore une fois, aux pollueurs de payer. Mais ce qu'il faut expliquer, c'est pourquoi est-ce qu'on est allé dans le mur? Parce qu'en fait, tout au départ a été mal conçu, n'a absolument pas été expliqué au grand public au moment de la mise en application. Et qu'à partir du moment où vous avez, on va dire, le lobby routier qui a organisé les fameuses manifestations de bonnets rouges, qui avaient sans doute peut-être des bonnes raisons de manifester.
Oui, c'était pour l'économie locale, voilà, c'est ce qu'ils disent.
Le gouvernement n'a absolument pas réagi immédiatement, et une semaine après, c'était trop tard, donc c'était mort.
Allez.
Donc c'est... c'est typiquement français. Vous savez, c'est des espèces c'est la lâcheté, d'usines à gaz.
C'est la lâcheté devant les lobbies.
C'est le manque de dialogue, c'est le manque d'explication.
C'est la lâcheté devant les lobbies. Parce que pour sauver les producteurs laitiers, il aurait fallu s'attaquer à Lactalis. On a laissé faire la FNSEA et c'est devenu les bonnets rouges.
Ça doit se terminer, les informés.
Oui, mais ça doit se terminer.
La politique,
c'est
la
pédagogie.
Non, ça doit se terminer. Voilà, je vous savais ici. Allez, merci beaucoup, en tout cas, Axel Tessandier, d'être passé ce soir aux informés de France Info. Merci Julien Bayou également. Merci David Bouhery et merci Laurent Bazin. Avec rappelle donc que votre livre avec Alba Ventura chez J'ai lu, donc Le bal des désingueurs, ce que les politiques balancent en off. Vous connaissiez la version grande, maintenant c'est la version poche que l'on peut également trouver partout.